Et ce matin, je lisais les articles consacrés à la réforme de l'éducation, des articles généralement critiques, et je pensais à mes petits cousins. Oui, parce que je vous ai pas dit, j'ai des petits cousins indiens. Ma cousine a épousé un Indien, ils vivent à Ahmedabad, la capitale du Gujarat, un état industrieux de l'ouest de l'Inde. Le mari de ma cousine vend des machines-outils, ils appartiennent donc à la classe moyenne. Quel rapport entre la réforme de l'éducation de Najat Vallaud-Belkacem et mes petits cousins ? Eh bien aujourd'hui, mes petits cousins, qui ont entre 6 et 10 ans, parlent 5 langues vivantes. À l'école, ils étudient le Gujarati, le sanskrit, mais aussi l'anglais, ça c'est la base. L'espagnol, parce qu'ils ont envie de voyager en Amérique latine, et le français, qu'ils parlent à la maison. Ils sont par ailleurs très forts en maths, en physique. Ils nagent très très bien en milieu aquatique profond standardisé. C'est comme ça qu'on appelle la piscine. Je traduis pour ceux qui n'ont pas appris à lire à l'ENA, puisque dans les rapports de l'éducation nationale, une piscine se dit milieu aquatique profond standardisé. Et si je compare ce que savent mes petits cousins indiens à mes enfants, qui ont à peu près le même âge, inutile de vous dire que c'est juste une catastrophe. Et c'est à l'aune de comparaisons internationales qu'il faut juger la débâcle de l'école française. Tous les pays du monde croient en l'éducation, l'Inde investit immensément pour former sa jeunesse, les Coréens s'endettent sur plusieurs générations et pendant ce temps-là, l'Hexagone vit dans un autre monde, nous allégeons nos programmes. Même l'Amérique se ruine pour son système éducatif. Les emprunts contractés par les Américains pour financer l'éducation de leurs enfants représentent aujourd'hui 1,2 milliard de dollars, soit plus que les encours de carte bleue du pays. Ces chiffres et ces faits, il faut les répéter pour que nous n'ignorions plus que nous sommes en train de faire collectivement le choix de l'ignorance.
France Inter, service public, Guillaume Erner.
Alors on sera peut-être ignorant, mais on vivra dans des villes où il fait bon vivre. En tout cas, on en parle ce matin dans Service Public. Nous sommes en compagnie de Taoufik Swami, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'école d'urbanisme de Paris, de l'université de Paris-Est-Marne. Et vous avez notamment publié « Ville rêvée, ville durable » aux éditions Découvertes Gallimard. À côté de vous, Jacques Azoulay, bonjour. Jacques Azoulay, vous êtes en charge du développement des nouveaux services à La Poste. Et vous évoquerez avec nous ce que La Poste fait pour améliorer la qualité de vie des Français dans les villes. Bonjour. Nous sommes également en compagnie de Laurence Pivot. Bonjour. Bonjour. Laurence Pivot, vous êtes en charge du hors-série annuel de l'Express. Changer de région, quitter Paris parce que tout le monde veut quitter Paris, Laurence Pivot.
200 000 franciliens, en tout cas, chaque année, quittent la ville, mais pour des raisons très différentes. Il y a des jeunes, il y a des étudiants qui sont diplômés, par exemple, et qui partent ailleurs. Il y a des retraités aussi qui veulent prendre leur retraite au soleil, comme on dit, et le soleil parisien n'est pas forcément toujours très...
C'est pas toujours effectivement
là.
Idéal.
Voilà. Donc il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on quitte Paris, mais il y a beaucoup de gens qui arrivent à Paris aussi. C'est quand même la grande capitale, la grande métropole de France.
On verra en tout cas où il faut aller selon vous, en fonction des critères que vous retenez, quelles sont ces villes où il fait bon vivre. Et puis j'en parlais en introduction, Chantal Lambert, vous êtes la directrice du Conseil national des villes et villages fleuris. On voit ça lorsqu'on rentre dans une ville, on voit ces petites fleurs qui distinguent des villes. Il y a aujourd'hui 4500 villes détentrices du panneau Ville Fleurie, ce qui fait quand même une ville sur 8. Vous n'êtes pas beaucoup.
Ville ou village.
Ça fait quand même beaucoup de villes ou de villages. Il y a un peu plus de 200 villes qui ont les 4 fleurs. Comment distingue-t-on une ville? Sur quels critères va-t-on accorder ou pas ces 4 fleurs à une ville ou à un village, évidemment?
Alors, c'est vrai que le label, en fait, ce label ville ou village fleuri, parce qu'il y a des petits villages, il y a également une commune qui fait 39 habitants, qui est 4 fleurs. Donc,
laquelle?
C'est Beaumont-Nargonne. C'est une. Alors, comment procède-t-on? C'est un label, en fait, qui récompense une marche à suivre réussie, qui est une marche à suivre qui est à disposition des élus, des maires et de leurs services pour qualifier leur territoire grâce à une façon de concevoir le. Et je pense que je serai d'accord avec Monsieur Taoufik Swami aujourd'hui, concevoir le territoire autrement qu'on le faisait avant. Et il y a plusieurs critères qui rentrent en ligne de compte dans cette labellisation. On est 4 fleurs quand on est arrivé à un niveau d'excellence. Il y a, comme vous le disiez tout à l'heure, 4509 villes et villages labellisés. Il n'y en a que 227 qui sont 4 fleurs. Donc il y a des gradations. Et 227, c'est avoir les meilleures notes dans les différents critères qui sont ces fameux critères de labellisation.
Alors parmi ces villes, on peut citer Cahors, Biscarrosse, Saint-Galmier, on peut citer également Montbrison, j'ai vu qu'il y avait également Évian, il y a Ivoire, une petite ville au bord du lac Léman. Ça doit coûter cher parce que pour la plupart, ce sont des villes quand même assez cossues.
Non, on ne peut pas dire que ça coûte cher. En fait, au départ, c'est vrai que la labellisation, c'était la fleur. Il y en est toujours resté au symbole de la fleur. Mais aujourd'hui, c'est une démarche globale, puisque c'est une démarche sur le long terme. Hein, quand une municipalité s'engage dans une démarche de labellisation, elle y rentre par la première, deuxième, troisième, quatrième fleur. C'est une démarche globale et qui est une démarche cohérente. C'est-à-dire que non seulement il y a la fleur, mais aujourd'hui, c'est moins de fleurs, mais mieux de fleurs. Mais également, on rentre dans cette démarche, la propreté de la ville, l'entretien, sa gestion, son environnement, la façon dont il qualifie son territoire, la façon dont il met en valeur ses atouts, donc énormément de choses et pas simplement que la fleur. Donc on peut dire que c'est de 2 à 3% d'un budget pour les communes.
Les villes fleuries représentent en tout cas une conception traditionnelle de la ville où il fait bon vivre, parce qu'on est content d'avoir des fleurs, parce que bien souvent on est face à un paysage urbain qui est un paysage classique. Il y a aussi beaucoup de tentatives d'innovation. Taoufik Souami, vous qui étudiez les villes, quelle est la ville que vous préférez en France?
La ville que je préfère moi, à titre personnel, d'une manière tout à fait subjective, Paris, tout simplement. Alors quand je dis Paris, c'est pas Paris intramuros uniquement, c'est Paris, c'est maintenant un territoire très grand, et donc... C'est aussi bien Paris intramuros que la première périphérie pour différentes raisons. Comme beaucoup d'habitants, en fait aujourd'hui, on ne vit pas dans un lieu, on ne vit pas dans un quartier en particulier. On butine pour réaliser ces bouts de désir de ville quand on a les marges de manœuvre, parce qu'on ne les a pas toujours.
On l'a compris, il y a un clivage entre ceux qui préfèrent vivre dans une grande ville qui symbolise la grande ville. En France, ce peut être Lyon, ce peut être également Paris. On a aussi d'autres conceptions du bon vivre qui vont plutôt vers des villes, cette fois-ci, qui s'approchent du village. On a beaucoup d'auditeurs qui réagissent pour nous dire les villes où il fait le mieux vivre. Aurélie nous dit, par exemple, qu'il fait bon vivre à Clisson, en Loire-Atlantique. Christian nous dit qu'il fait bon vivre à Grand-Seigne, mais il nous cite les scores de la présidentielle où Jean-Luc Mélenchon a eu un score élevé et c'est pour ça qu'il aime bien vivre à Grand-Seigne. On le voit, il y a des raisons extrêmement variées d'aimer la ville dans laquelle on vit. On attend en tout cas vos témoignages sur la ville où vous vivez au 01 45 24 7000 et on écoute Mademoiselle Marseille de Moussu, un disque choisi par Olivier Bétard et Thierry Dupin.
Service public 01 45 24 7000 ou sur franceinter.fr.
Mademoiselle Marseille m'a donné rendez-vous pour sortir avec elle, enfin, mais je ne sais pas où la chercher, la chercher. Il me faut la chercher, oh ouais. La trouver, la trouver. Je dois la retrouver, oh papa. Je vais voir à Saint-Jean et au quartier du Panier. J'interroge les gens pour savoir où elle est. On me dit qu'on l'a vue vendre des limaçons. J'ai beaucoup ri les rues. J'entends pas sa chanson. Oh, famille et Marseille, montez ses escondeurs. Oh, famille et Marseille, Bessaitis est perdu. Remonte en canebière, j'ai le cœur qui s'emballe. Oh, l'on est vu hier. De cristal, mauvaise limonade, y'a plus que des musées, que des belles façades, viennent pour s'amuser. Chercher partout des collines à la mer, ça fait un sacré beau. Des calanques à la nette, c'est une histoire de fou. Ça fait des kilomètres, je suis sur les genoux. Enfin, misé Maxi. Monte siège escondida, oh famille de Marcia, besa qui s'est perdida.
Service public sur France Inter, les villes où il fait bon vivre en France. On en parle en compagnie de Jacques Azoulay, qui est en charge du développement des nouveaux services à la Poste, de Taoufik Souami, qui est urbaniste, qui a notamment publié Ville rêvée, ville durable chez Gallimard, de Chantal Lambert, qui est la directrice du Conseil national des villes et villages fleuris, et puis Laurence Pivot, qui dirige le hors-série annuel Changer de région, quitter Paris pour l'Express. Et Paul nous dit qu'il ne veut pas faire de l'anti parisianisme primaire, mais enfin, quand les mails commencent comme ça, généralement, ça veut dire qu'on va dégoiser sur Paris. Mais il remarque que depuis environ 10 ans, les Parisiens arrivent de plus en plus chez nous. Chez nous, pour Paul, c'est Nantes. Et effectivement, Nantes est plutôt bien classée dans vos classements, Laurence Pivot. Il faut dire que vous avez beaucoup de classements, ce qui permet à toutes les villes de France d'être première. Donc vous ne mouillez pas trop, par exemple.
Tout à fait, pas tout à fait.
Sur les villes les plus écolos, alors il y a Vannes qui arrive en premier, Poitiers qui arrive en second. Sur les atouts économiques, effectivement, Nantes est première, Rennes est seconde et Aix-en-Provence est troisième. Si on veut quitter Paris, vous donnez donc des conseils. Si vous deviez synthétiser, c'est évidemment compliqué. Que diriez-vous, Laurence Pivot, pour conseiller nos auditeurs qui voudraient quitter Paris ou bien tout simplement bouger d'une ville de France à une autre?
Eh bien, je dirais avec beaucoup de diplomatie d'abord qu'on peut être heureux partout.
Oh, comment vous mouillez pas, vous.
C'est ça. Et que nos palmarès nombreux, effectivement, permettent d'évaluer la qualité de vie, mais que la notion de bonheur et de bien-être est évidemment une notion très individuelle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut aussi se poser quelques questions, des bonnes questions avant de partir. Ça paraît un peu évident de dire ça, mais je pense que beaucoup de gens, par exemple, pour ceux qui veulent quitter Paris, imagine tout de suite aller sur une côte, hein, le pourtour méditerranéen ou la côte atlantique, ce sont des endroits qui ont beaucoup de séduction et qui plaisent beaucoup aux gens. Mais ils n'ont pas forcément raison d'aller dans certains endroits en fonction de ce qu'ils recherchent. C'est-à-dire que si on veut une ville avec un dynamisme économique, un enseignement de qualité, un bon aéroport, une offre culturelle intéressante, la mer et la montagne pas trop loin, par exemple Toulouse, évidemment ça peut être formidable.
Toulouse c'est formidable.
Oui, mais Toulouse c'est cher. Par exemple, c'est une ville avec l'usine Seveso aussi, qui a une sorte de taux de dangerosité qui peut être important. C'est une ville où l'insécurité est aussi importante. Et ce sont des critères pour certaines personnes qui sont déterminants. Par exemple, Grenoble, on dit que c'est formidable, c'est une ville estudiantine, les amateurs de ski et de montagne seront comblés, il y a des emplois qualifiés, il y a de grandes universités, mais Grenoble est une ville extrêmement polluée. Par exemple. Donc, il faut étudier la question.
Grenoble, c'est une ville sans publicité, ce qui peut apporter un confort visuel lorsqu'on
absolument,
s'y promène.
Absolument, ça peut être important.
Néanmoins, est-ce que vous avez dans ces palmarès, Laurence Pivot, des villes qui peuvent constituer en quelque sorte les grandes oubliées? Vous trouvez des villes dans ces palmarès qui ne seraient pas jugées à leur juste valeur par les Français?
Alors oui, ça, après il y a toutes sortes de classements, mais par exemple, c'est sûr que les villes moyennes, sont assez triomphantes dans une certaine mesure. Il y a une vingtaine d'années, on prédisait la disparition des villes moyennes. Alors une ville moyenne, c'est environ 250 000, 300 000 habitants à peu près. Et en fait, les villes moyennes ont beaucoup d'atouts parce qu'elles ont souvent une attractivité culturelle. Il y a des tramways, il y a une vraie politique municipale, par exemple, pour développer les transports, les modes de transport doux. Il y a des villes où il y a aussi de l'emploi, bien sûr, et une ville comme Angers, qui n'est pas forcément celle à laquelle
la douceur
on pense
angevine.
Immédiatement, eh bien, a effectivement beaucoup d'atouts. C'est une ville à taille moyenne, mais où il y a de l'emploi, il y a une qualité culturelle, il y a une offre culturelle, donc pourquoi pas.
Puis il y a aussi le berceau d'Élodie Piel à Angers, ce que l'on sait trop peu, mais c'est en tout cas le berceau de sa famille. Et donc elle acquiesce en régie en disant qu'effectivement il fait bon vivre à Angers. Nous allons prendre Catherine qui nous appelle d'Orléans. Bonjour Catherine.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons. Alors est-ce que vous êtes heureuse d'habiter Orléans?
Alors, je suis plus heureuse qu'il y a quelques années parce qu'Orléans était une ville morte, même au niveau des activités, pendant très très longtemps. Depuis quelques années, ça fait une dizaine d'années, il est vrai que Orléans, il y a quand même beaucoup de culturel et beaucoup de culturel gratuit. On a aussi l'attrait de la Loire, mais je trouve que la ville est trop minérale. Elle a été refaite, certes.
Trop minérale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'espace vert?
Ce sont des parcs. Quand ils sont fermés, moi je trouve qu'il n'y a pas assez de verdure, il n'y a pas assez d'arbres. Et justement, je rebondissais sur la ville de Angers. Je suis allée faire de la randonnée il y a une dizaine de jours. Ça respire, c'est une ville où il y a une quantité d'arbres qui manque terriblement à Orléans. Orléans, c'est une ville pavée, c'est du linéaire. Et malheureusement, je trouve que dans beaucoup de villes aujourd'hui, même dans ma ville natale, on a coupé les grands arbres pour refaire des places où on met des petits plots. Et la moitié du temps, c'est une place qui est morte, vide, et ça dépeuple un petit peu les centres. Je trouve qu'on est un petit peu dans une pensée unique, dans la construction, et ça fait beaucoup penser à des places qu'on trouvera bientôt en Europe, qu'on soit à Lille, etc.
Voilà. Oui, c'est effectivement une remarque qu'on peut se faire. On voit la piétonnisation des villes, on voit en fait des mesures un peu standards qui du coup donnent à Orléans comme ailleurs les mêmes physionomies urbaines. Qu'en pensez-vous, Taoufik Souami, vous qui êtes professeur à l'école d'urbanisme de Paris-Est-Marne?
Alors, ce témoignage correspond tout à fait à ce qu'on constate, c'est-à-dire qu'il y a une demande très forte depuis plusieurs années maintenant, ce qu'on appelle très rapidement le vert. Et le vert, c'est pas juste c'est ce qui vient d'être évoqué, quelques alignements d'arbres, c'est-à-dire il y a vraiment une demande très très forte, que ça soit dans les projets ou dans les plaintes qu'on peut relever ou dans les enquêtes qui sont faites, de vivre dans un espace où on va trouver de la nature de différentes manières. Et cette nature-là, quoi, qui est recherchée, on veut participer, y activer, etc., aménager, toucher de près. Donc c'est les villes fleuries, mais c'est aussi les Balkans. Et alors, il y a eu des initiatives rigolotes qu'on a pu voir et qui illustrent bien ce besoin qui s'oppose parfois justement aux villes. Par exemple, les Guerrieros du jardinage, hein, c'est une association qui s'est diffusée un peu partout dans un certain nombre de grandes villes. Et ben, ils repèrent les tout petits espaces entre deux voies, un petit rond-point, un tout petit en plein ville, qui n'est pas planté, et il le plante. Au début, jetait juste des sacs de graines et ensuite il revenait. Et maintenant, on a des demandes très fortes, maintenant plus systématiques, de jardins partagés. C'est-à-dire que les gens souhaitent vraiment vivre dedans et intervenir.
Valère est au standard. Valère nous appelle de Strasbourg. Nous
oui, bonjour.
Nous écoutons Valère. Est-ce que vous êtes heureux de vivre à Strasbourg?
Alors, effectivement, j'ai eu spontanément envie de vous appeler pour dire je vis et je travaille dans une ville qui est très animée. On est sur un centre-ville qui a énormément le centre-ville avec l'absence de voitures, les rues en 100% piétonnes ou les rues à circulation très limitée, c'est excessivement étendu. Mmh. C'est quelque chose qui a commencé sur Strasbourg à l'époque de Pierre Primelin, qui est il y a bien 30 ans, ancien président du Conseil de la 4e République, donc ça nous amène un petit peu en arrière. Et il y en a cette, ce cœur piéton qui...
Et ça, ça participe grandement à la qualité de vie, selon vous ?
Il y a d'abord eu énormément d'opposition. Les commerçants étaient révoltés qu'on leur enlève les voitures. Et aujourd'hui, c'est le succès de notre centre-ville qui est dû à ça.
Merci pour cette remarque. Alors, on est effectivement sur des villes piétonnes avec, semble-t-il, un plébiscite de la piétonnisation des centres-villes, avec aussi une adaptation des services publics qui doivent, dans ces villes-là, eh bien, trouver de nouvelles méthodes. Jacques Cazoulet, vous représentez ici La Poste. Que fait La Poste dans ces centres-villes pour s'adapter aux nouveaux modes de vie urbains ?
Ce témoignage me parle beaucoup parce que l'activité traditionnelle de La Poste, c'est concrètement tous les jours transporter 50 millions de courriers, de colis, d'objets d'un bout à l'autre du pays, avec donc beaucoup de moyens de transport, des avions un petit peu, des trains, mais surtout beaucoup de camions et d'utilitaires dans les centres des villes. Et du coup, lutter contre les nuisances inévitables qui vont avec une activité logistique comme celle-là, c'est au cœur de nos priorités. Et ce que l'on a fait, c'est qu'on a cherché depuis maintenant plusieurs années, 5-6 ans, à verdir, à électrifier notre parc de véhicules pour réduire les nuisances qui ne sont pas que les émissions polluantes, mais aussi le bruit, les vibrations. On sait que le transport automobile, c'est la première source de bruit dans les villes et villages.
Et vous avez donc le premier parc électrique au monde, c'est cela ?
Oui, c'est assez peu connu, mais en fait la Poste française a la plus grande flotte de véhicules électriques au monde. On a 25 000 véhicules électriques, on a déjà 5 000 Kangoo, véhicules utilitaires qui circulent électriques dans les villes. Progressivement, on remplace tous nos vélos et les scooters par des vélos à assistance électrique, mais on continue avec des quads, des trois roues électriques qui ont été faits spécialement pour nous, et on teste maintenant des véhicules au gaz, même un petit camion électrique. Voilà, tout ça pour améliorer la vie dans les centres des villes et réduire toutes les nuisances liées à l'activité logistique de La Poste.
Frédéric nous parle d'Annecy. Elle dit qu'Annecy est une ville magnifique, ce que chacun peut constater lorsqu'il va effectivement à Annecy. Il y a le lac, la montagne, et il y a la proximité de Genève, nous dit Frédéric. Qu'est-ce qu'on peut faire en Suisse ? Je ne sais pas, on peut promener peut-être des devises. En tout cas, il y a toutes ces aménités sur Annecy. Acheter du chocolat, acheter une Rolex, bref, toute une série de choses. Mais elle nous dit qu'il y a un vrai problème qui est représenté par les prix de l'immobilier, et c'est souvent le revers de la médaille, puisque on a souvent affaire effectivement à des villes qui sont comme cela privilégiées, mais avec de vrais problèmes d'habitation. Qu'en pensez-vous, Laurence Pivot, vous qui êtes responsable du hors-série de l'Express ?
Effectivement, l'immobilier est un critère absolument déterminant pour beaucoup de gens. Je n'invente pas la roue en disant que bon, des villes comme Bordeaux, Montpellier sont évidemment plus chères que Limoges ou Clermont-Ferrand, par exemple.
Alors voilà, justement, je voulais en venir là. Limoges est une ville où on peut se loger de manière particulièrement
pas
économique.
Cher,
le centre de la France, généralement, est plutôt constitué de villes qui sont des villes très abordable et où la qualité de vie, je pense à Clermont-Ferrand, est particulièrement élevée. Est-ce que vous pourriez nous donner d'autres exemples de villes qui sont intéressantes du point de vue des prix de l'immobilier et qui sont en quelque sorte méconnues ?
Alors c'est vrai qu'en termes d'immobilier, par exemple, Toulouse est quand même cher, Bordeaux est quand même cher, Nantes... Pas tant que ça. Tout est relatif. Hein. Si on vient de Paris, tout le reste de la France nous semble bon marché.
Sauf peut-être d'ailleurs la Côte d'Azur qui est.
Sauf un peu,
problème.
Oui, Cannes, Nice. Mais même encore, je n'ai pas en tête exactement le prix du mètre carré à Nice. Sauf si vous êtes dans le centre historique, qui est peut-être très cher. Mais dès que vous partez un tout petit peu du centre-ville, de ce genre de ville, c'est quand même. Très, très, très peu cher par rapport à ce qu'on connaît à Paris.
Taoufik Souami, votre réaction comme urbaniste ?
Tout à fait. Et on a un différentiel. Et l'une des raisons pour lesquelles se font ces départs de Paris, c'est que concrètement, hein, vous êtes un ménage ou même un célibataire, vous revendez votre bien ou vous partez, votre pouvoir de vie, enfin pouvoir d'achat, vos capacités de vie sont démultipliées. Alors ça pose des problèmes assez lourds et là on est sur la partie, je dirais, la plus difficile, c'est que ça rigidifie très fortement les capacités de mobilité. Comme je disais, on n'a pas toujours les marges de manœuvre de bouger. Là, on l'a très concrètement et on n'arrête pas de dire il faut que les gens bougent. L'emploi est flexible ou en tout cas on vous invite à bouger pour trouver de l'emploi et à ne pas rester fixe. Mais de l'autre côté, c'est bien gentil d'y inviter, mais très concrètement, c'est... Non seulement c'est cher, mais comme disent les spécialistes, les marchés sont figés. C'est-à-dire, trouver des opportunités d'achat ou de location, c'est particulièrement compliqué. Comparé à des voisins qui ne sont pas très loin, la Belgique, où vous pouvez louer, alors en dehors des prix, encore une fois, qui sont en croissance, beaucoup plus facilement qu'en France. Parce que en dehors des prix, il y a la question de la confiance et la défiance. Voilà, en ville, le patrimoine, c'est un pays très patrimonialisateur. Et donc, voilà, les propriétaires ont très très peur de louer, etc. Voilà, il y a des aspects financiers, mais aussi un peu administratifs et sociologiques. Et
puis, Laurence Pivot.
Quand on bouge, il faut aussi penser à des budgets auxquels on ne pense pas nécessairement lorsqu'on vit, par exemple, dans Paris. C'est-à-dire que aller dans une ville en province, comme on disait autrefois, en région, si on n'est pas en centre-ville, il faut s'interroger sur les modes de transport, parce qu'il n'y a pas forcément de métro, de RER, etc. Donc, ça veut dire pour beaucoup de gens, on va trouver une petite maison avec jardin, qui est un peu le rêve de tout le monde, en périphérie d'une ville moyenne ou d'une ville un peu plus grande, mais ça nécessitera peut-être d'avoir une, voire deux voitures. Donc ça, c'est des budgets qui sont pas forcément
négligeables, puisqu'ils peuvent représenter jusqu'à 10% du budget des ménages en frais de transport, et évidemment, on doit en tenir compte lorsqu'on décide de déménager. Nous avons Martine qui veut nous parler de Marseille, tandis que les Nantais se manifestent sur Internet. Beaucoup de gens qui nous disent qu'il fait bon vivre à Nantes. Martine, nous vous écoutons. Est-ce que vous êtes contente d'habiter Marseille ?
Je suis ravie d'habiter Marseille. J'y suis née, mes parents y sont nés. Je trouve que c'est une ville absolument magnifique parce qu'il y a ses calanques, qu'il y a sa luminosité, son climat. Maintenant, depuis Marseille 13, donc ville européenne, il y a le Mucem, il y a les docks qui ont été réhabilités. Il y a eu justement au moment de cette manifestation de Marseille, ville européenne, il y a eu des tas de manifestations et tous les Marseillais étaient là et tous les Marseillais étaient chaleureux, conviviaux, heureux d'être là et de partager. Et il y a ces marchés de, à la plaine, sur le Prado de Marseille, il y a son port, il y a l'Estac, il y a le panier et la vieille charité. Et les gens sont très différents sur Marseille, c'est très mêlé et il y a des échanges et c'est une richesse que je trouve absolument extraordinaire. Je quitterai jamais cette ville.
Bref, vous souhaitez vous élever contre les préjugés qui sont souvent colportés sur Marseille, notamment en termes d'insécurité, pour dire que vous êtes heureuse d'être marseillaise.
Tout à fait. De toute façon, si vous voulez, quand j'étais petite, j'avais 9 ans, et quand on allait voir le feu d'artifice sur le vieux port, on se disait, tiens, quel règlement de compte il va y avoir. Ils vont profiter du bruit du feu d'artifice pour qu'il y ait un petit règlement de compte au passage. Donc c'est l'histoire marseillaise, ça. C'est pas nouveau et c'est pas, je pense que c'est pas pire qu'avant, quoi.
Merci.
Et puis c'est entre gens qui règlent des comptes, c'est pas la
population. Voilà, entre des gens qui sont en compte, comme on dit. Merci, Martine, pour ces remarques. Marseille, ça marche bien dans votre classement, Laurence Pivot ?
Marseille, c'est une ville qui a une forte personnalité, en général qu'on aime ou qu'on déteste. Madame est marseillaise, elle est née à Marseille. La problématique des nouveaux arrivants dans une ville avec une personnalité aussi marquée que Marseille, c'est plus compliqué. Donc Marseille, c'est une ville très fantasmée par beaucoup de Français, à juste titre et pour les raisons que Madame a décrites. Mais ça n'est pas toujours si facile que ça de s'y intégrer, ça n'est pas forcément facile non plus de trouver de l'emploi. Et il y a beaucoup de déçus de Marseille aussi, parce que la ville est victime de ses fantasmes.
C'est un déçu de Marseille.
Lui, s'il ne peut plus garer son yacht dans le port, c'est peut-être plus compliqué pour lui, effectivement. Mais Marseille, ça fait partie des villes fantasmées qu'il faut bien étudier. Et l'intégration pour les nouveaux arrivants dans une grande ville comme ça n'est pas impossible, ça n'est pas ce que je dis. Mais elle peut être plus difficile qu'on ne le croit.
Taoufik Souami.
Oui, donc dans ce témoignage montre que dans les critères, il y a le milieu social et les liens sociaux, c'est-à-dire qu'il y a le confort, accéder au verre, etc. Mais beaucoup de déplacements se font parce qu'on a eu l'expérience d'une région et d'une ville. Beaucoup se font aussi parce qu'il y a des parents, des amis. Il y a des réseaux de solidarité sur lesquels on peut compter quand on n'a pas des moyens financiers importants. Ça compte évidemment énormément dans ces choix-là, parfois même en mettant de côté la partie financière. Quand je dis milieu social, c'est aussi le milieu qu'on se choisit. C'est pour ça que l'école pour les ménages avec enfants sont très importantes. C'est révélateur du fait qu'on sélectionne un peu l'école et surtout le milieu social qu'indique l'école.
Sabine est au standard. Sabine nous appelle de Nice. Bonjour Sabine.
Bonjour à tous.
Et alors Nice, c'est comment Sabine?
Ah, Nice, c'est devenu un peu terrifiant, quoi.
Pourquoi?
Voilà. Ben, moi, je suis niçoise et j'en peux plus de Nice. Hein. Je veux dire, voilà, c'est terminé. C'est fini, quoi.
Qu'est-ce qui vous ennuie? Qu'est-ce qui vous embarrasse?
Tout d'abord, bon, les prix et de l'immobilier et de la vie à Nice, c'est complètement hallucinant. Hein. C'est quand même, c'est très très grave, hein, parce que ça s'est beaucoup paupérisé. Et on a des choses terribles, des gens qui sont là, qui font la manche, c'est monstrueux, monstrueux. Moi, j'ai connu Nice avant, et je peux vous dire que là, c'est devenu, c'est une espèce de poubelle à ciel ouvert, avec de temps en temps...
Écoutez, je suis passé à Nice récemment, j'ai pas vu de poubelle à ciel ouvert, je pense que vous noircissez un peu le tableau.
Je vais vous dire, dès que vous partez de la place Masséna et que vous allez un peu dans les rues adjacentes, bon ben voilà, c'est fini, hein, je veux dire, le vieux Nice, c'est... Moi j'ai vécu dans le vieux Nice, donc... C'est très typique.
C'est beau.
Et tout ça. Oui, c'est beau, mais enfin, il faut dire que dans le vieux Nice, on peut pas dormir, hein. C'est impossible, hein. Voilà, moi j'ai passé 5 ans dans le vieux Nice, 5 ans à pas dormir.
Après, et donc vous allez déménager?
Je vais déménager.
Vous allez où?
Je vais partir dans le Berry.
Dans le Berry. Ah, c'est une autre forme de...
Le Berry de mon cœur, parce que là, pour le coup, voilà, je veux dire, ça a été un choc, d'abord un choc, émotionnel, tellement c'est beau, quoi. C'est beau. Je veux dire, il y a ces rivières, il y a ces forêts, et puis il y a les Berrichons qui sont des gens extraordinaires, ouverts, tolérants, et puis intelligents avec du bon sens. Donc, voilà.
Vous dites ça probablement parce que vous êtes amoureuse d'un Berrichon. Je ne doute pas que ce soit d'ailleurs un homme
Berry, voilà.
Merveilleux. Mais,
mais je suis tombée en amour du Berry. Et je vais vous dire, j'ai découvert le Berry il y a 2 ans. Je suis allée.
Oui, là, c'est la lune de miel, hein, entre vous et le Berry.
Dans un petit bled, mais vraiment, un petit village où j'avais trouvé une location un truc communal, là. La nana est venue me chercher à la gare.
Ah, bah voilà.
Disant, attendez.
C'est le service à la personne. Chercher. Ben alors, écoutez,
monsieur,
là vous nous donnez envie de déménager dans le Berry, on va peut-être s'y mettre, mais il y a quand même quelqu'un dans le studio qui n'a pas l'air complètement d'accord avec vous, c'est Chantal Lambert qui est la directrice du Conseil National des Villes et Villages Fleuris. Peut-être que vous trouvez que sur Nice, Sabine était un peu dure.
Alors, la qualité de vie, c'est du ressenti. Et moi, je suis ravie pour Sabine si elle est tombée amoureuse du Berry et j'espère qu'elle va y passer des moments de bonheur extraordinaires. Mais je vais défendre Nice, bien sûr. Auparavant, je voudrais quand même juste rappeler qu'en écoutant Laurence Pivot et en écoutant les auditeurs, quand les personnes témoignaient de la qualité de vie de leur ville... il n'y a pas de miracle, c'est vrai que ces villes étaient quatre fleurs. Angers est quatre fleurs, Nantes est quatre fleurs, Vannes est quatre fleurs, Annecy est quatre fleurs, Nice est quatre fleurs, Strasbourg et Brest, c'est bien, ils sont trois fleurs, mais notre habitant de Strasbourg, effectivement, nous dit que la ville s'améliore de mieux en mieux. Nice, je vais la défendre parce que Nice, il y a des efforts extraordinaires qui ont été faits. Il y a la fameuse promenade du Paillon qui a permis de faire en sorte que tous les regards se projettent pas vers la Méditerranée, mais se retournent vers l'intérieur de la ville. Donc, il y a des choses extraordinaires qui ont été faites, qui sont également prévues. Et je crois que quand même, Nice est apprécié et à juste titre.
Jacques Azoulay pour La Poste, vous vouliez réagir.
Oui, je voulais réagir sur Angers. Ça fait plusieurs fois qu'on cite la ville d'Angers. Il me semble que dans ce qui fait qu'il est bon de vivre dans une ville, il y a évidemment tout ce qu'on a déjà cité, l'environnement, le prix de l'immobilier, mais il y a aussi les services auxquels on arrive à accéder facilement ou pas. Alors, je ne dis pas que ce qu'on fait avec la Poste à Angers contribue fortement à ce que Angers soit en tête de beaucoup de classements, mais il se trouve que c'est une ville dans laquelle on expérimente depuis quelques temps maintenant la livraison des colis le soir, sur des tournées en soirée entre 18 et 21 heures.
Ça, c'est bien, effectivement.
Ce qui fait que les gens n'ont plus à aller chercher leurs colis dans les bureaux de poste, même si l'accueil est bien mieux qu'avant dans les bureaux de poste, mais enfin, on n'a pas toujours envie d'avoir à se déplacer. Et donc, voilà, c'est quelque chose qu'on expérimente à Angers, qu'on va étendre dans d'autres villes, et plus globalement, c'est cette idée de simplifier la vie des gens, des habitants des villes, et de leur apporter le service là, et au moment et dans le lieu qui les arrange. En leur permettant, quand ils ont un colis à recommander, de choisir une deuxième présentation, de demander aux facteurs de repasser pour ne pas que eux soient obligés de se déplacer.
Et la Bretagne est en train de se rebiffer. Elle dit qu'il fait bon vivre à Brest, dans cet autre Finistère, et également à Rennes, grande ville, mais chaleur villageoise, nous dit Basile sur Twitter. On continue à en parler tout de suite après Chicago, If You Leave Me Now. Si vous quittez votre ville et que vous voulez ailleurs, on vous donne des conseils pratiques tout de suite après ça.
Take away the biggest part of me.
Service public sur France Inter, une émission consacrée aux villes de France où il fait bon vivre. Des villes qui sont bien souvent, on l'a dit, des villes fleuries qui sont un peu partout en France. Et justement, notre reporter Antoine Lys s'est rendu dans une commune qui depuis 15 ans possède un label 4 fleurs. C'est le plus haut classement donc du label Ville et Village Fleuries. Pour voir des roses et de beaux arbres, il s'est rendu en Seine-Saint-Denis, dans le 9-3, comme disent certains, plus précisément à Aulnay-sous-Bois. Antoine a rencontré Sylvie Schlumberger, c'est la directrice du service des espaces verts d'Aulnay.
Ici, on est dans une rue où il y a des poiriers d'ornement. Dans un mois, ils seront tout blancs et c'est magnifique.
On va arriver à un carrefour, là.
C'est un carrefour important. On a essayé de fleurir sur les petits espaces qui restent, parce qu'il y a des milliers de voitures qui passent là chaque jour.
Alors là, on vient de s'arrêter, là, Sylvie. On est devant un petit parc.
Alors, c'est évidemment pas la bonne saison pour les roses, mais on va voir que les jardiniers préparent cette saison-là en rajoutant des rosiers là où il en manque.
On les voit à l'œuvre, là, déjà, là, au loin, là, on les voit, là, avec leurs gilets fluo.
Voilà, c'est ça, exactement, oui. On va les retrouver.
Ça va, ça se passe bien, messieurs ?
Oui, très bien, on a le soleil, c'est ce qui compte. Hein.
Cette roseraie se veut sans produit de traitement, du coup on veut absolument des variétés qui soient le plus résistantes possible aux maladies.
Il y a combien de rosiers là, plantés aujourd'hui là ?
Il y en a 30.
Ah ouais, ça fait du boulot. Hein.
Nous sommes là pour entretenir tout ça et puis... Et donner un peu d'amour.
Donner un peu d'amour, vous voyez comment ils parlent. Hein. Donc, c'est des gens qui aiment ce qu'ils font, quoi, globalement. Hein.
Vous, ça vous fait quoi de faire en sorte qu'une ville soit embellie par les fleurs ?
C'est donner des beaux paysages aux citoyens de la ville. Il y a des collégiens, il y a des personnes âgées, donc qui viennent s'installer et prendre un livre et voir un paysage qui est différent par rapport à le côté urbain où on voit des voitures partout, des bâtiments partout. Et bien là, ils viennent se poser. C'est un bol d'air pour les gens.
Même dans ces quartiers un peu sensibles, même là, on essaie quand même d'avoir des espaces verts de qualité. Hein, voilà. Et on ne veut surtout pas les abandonner. Il y a des villes où il y a essentiellement du minéral. Il y a des villes aussi où il y a du minéral et puis un parc un peu en périphérie. Nous, l'idée, c'est quand même d'introduire cette végétation en cœur de ville, là on peut grignoter. À titre d'exemple, il y a un quartier qui a peu d'espace vert, où il n'y avait pas de jardin public. On a dit, on prend un petit parking. Il fait que 220 mètres carrés, ce petit parking, mais on en fait un petit jardin de quartier. Ça a été dur parce qu'il a fallu faire accepter au quartier de perdre 8 places de parking. Mais on a tenu bon et on a fait ce petit jardin qui est un lieu de rencontre des mamans et des enfants et qui avait vraiment un besoin d'exister dans ce quartier-là. Il faut un équilibre entre le bâti, le minéral et la verdure.
La population est plus gentille, elle vient nous parler, elle demande qu'est-ce que vous faites, machin, et que quand on était... dans un autre milieu, les gens, c'est tout juste, ils passent sans nous dire quoi que ce soit.
La présence de verdure devant les yeux joue sur, j'ai envie de dire, la santé psychique des gens. Hein.
Je dois dire qu'effectivement, suite à ce reportage d'Antoine Lee, nous avons beaucoup de mails de gens qui nous disent que la qualité d'une ville, c'est généralement le fait qu'elle soit associée à ses fleurs, au fait qu'on y trouve de la verdure, même s'il y a des débats. Par exemple, des Rouennais qui nous disent qu'il faut aller vivre à Rouen, tandis que Mathieu nous dit que c'est une ville minérale qui est mal fleurie. En tout cas, on voit qu'il y a là quelque chose d'essentiel en matière de qualité de vie en ville. Chantal Lambert, vous qui représentez ici le label Ville Fleurie.
Alors d'abord, je voudrais saluer ce que Sylvie Schlumberger fait à Aulnay-sous-Bois, qui est une ville 4 fleurs. Et non seulement Sylvie Schlumberger, mais toutes ses équipes, parce que tous les jardiniers, aujourd'hui, avec la labellisation, ont retrouvé leur quartier de noblesse. Avant, ils étaient des exécutants, maintenant ils sont des artistes. parce qu'ils mettent en scène la nature. Notre slogan serait peut-être « Faire rentrer la nature en ville ». Et la nature, pas la nature artificielle, avant on l'a domptée, on domptait la nature, aujourd'hui on s'harmonise avec elle. Et c'est vrai que, comme disait aussi ce jardinier, c'est que là où il fait bon vivre, inspire le sourire, et c'est vrai qu'on parle, c'est vrai qu'on échange, et c'est vrai que c'est des endroits où il est agréable de se promener, de passer du temps, etc. Donc c'est important.
Jean nous dit, vous ne parlez jamais de Bordeaux. Pourquoi? Pourquoi, effectivement?
Si, bien sûr.
Laurence Bivot, vous ne parlez jamais de Bordeaux.
Non, on parle de Bordeaux. Encore une fois, si on revient à nos palmarès.
Bordeaux est une ville qui a beaucoup changé.
Ce sont des moyennes que l'on fait. Mais Bordeaux, en fait, ce qui est très, moi, depuis que je m'occupe de Sœurs Séries, ce que je remarque surtout, c'est que depuis 2-3 décennies, le visage urbain de la France a énormément changé. On prédisait la mort des villes moyennes. Ce n'est pas vrai. Elles gagnent, en fait, en population. Et des villes comme Lyon et Bordeaux, par exemple, qu'on a longtemps qualifiées comme de villes riches mais austères, sévères, où il était difficile de s'intégrer, aujourd'hui, ce sont des villes qui connaissent un tel brassage de population que vraiment, la face de ces villes-là a complètement changé.
Christian est au standard. Bonjour Christian, nous vous écoutons, vous êtes en direct sur l'antenne de France Inter.
Allô ?
Oui, bonjour Christian.
Oui,
vous
bonjour,
nous appelez de Nancy. Et c'est agréable, Nancy ?
Oui, tout à fait. La ville resplendit par rapport à la place Stanislas, hein, bien évidemment.
Et oui.
Mais
c'est une très belle place.
L'école de Nancy, la culture en général y est bien représentée. On a des concerts à la salle Poirel.
Beaucoup d'efforts ont été faits effectivement à Nancy. Donc vous êtes heureux, vous êtes un Nancéen comblé.
On va dire pas tout à fait par rapport à ma remarque portée justement sur le label Ville Fleurie. On a une ville qui est extrêmement fleurie, je crois qu'on a 4...
Vous avez 4 fleurs, je vous le confirme.
Ah, voilà.
On les a recomptées.
Pour autant, j'entendais que l'attribution se faisait également par rapport à la propreté générale de la ville. Et moi, je promène mon chien tous les jours, je ramasse ses déjections, mais je dois slalomer, mais pas mal de personnes que je connais qui promènent également leur chien font la même chose, parce que certains ne ramassent pas. Et j'avais écrit au maire de Nancy à ce propos, à l'époque, M. Rossineau, maintenant le successeur ne fait pas mieux par rapport à ce qu'on peut appeler l'amélioration de cela. J'avais dit qu'il fallait...
Une politique chiracienne, je veux dire chiracienne sur les trottoirs, puisque effectivement, il était particulièrement... remonter Jacques Chirac sur la propreté des trottoirs, est-ce que l'on observe, Laurence Pivot, dans les classements que vous faites, des critères en fonction de la propreté de la ville? Est-ce qu'il y a de véritables variations?
Alors, dans la propreté, il y a des critères, je crois bien, mais en termes de politique environnementale en général, il y a la part d'espace vert, effectivement, mais plus généralement, et les fleurs et les plantations sont évidemment très importantes, mais plus généralement, la politique environnementale d'une ville inclut aussi, par exemple, le choix des modes de transport. Est-ce qu'on privilégie le tram, le vélo, les transports doux, comme on dit, les transports collectifs aussi. Ça fait partie aussi de la qualité de vie et c'est extrêmement important.
Taoufik Souami.
Oui, la prévention, elle est globale. Ce qu'on perd de vue parfois, c'est qu'effectivement, les habitants regardent l'ensemble. Parfois, on fait des efforts très importants sur le fleurissement, sur les parcs, sur les jardins ou l'éclairage, et sur quelque chose de tout à fait classique que l'on sait faire normalement depuis déjà quelques décennies, des ratés comme ça font que l'appréhension tombe. Donc il y a une attente très forte d'une qualité globale, parce qu'on a une appréhension globale. Du coup, il y a un certain nombre de collectivités en France ou ailleurs qui font participer les habitants pour signaler. Donc il y a même maintenant des applications. Alors avant, il y avait des numéros de téléphone. Maintenant, des applications où il y a un problème sur le trottoir.
Et donc, on peut signaler, etc. Effectivement.
Et signaler. Et donc, elles se donnent des chartes un peu de qualité. Ça marche pas toujours. Mais en tout cas, ça montre que il y a des directions qui sont prises dans ce sens-là.
Et puis, évidemment, cela concerne tous les acteurs, tous les protagonistes de la ville, notamment La Poste, Jacques Azoulay. Vous nous avez parlé des efforts que développait La Poste pour améliorer la qualité de vie dans les villes. J'imagine que vous avez d'autres choses dans vos placards pour continuer à améliorer la qualité de vie dans les villes.
Oui, on a beaucoup parlé de façon générale de ce qui fait qu'on est heureux de vivre dans une ville. J'ai le sentiment que c'est pas exactement la même chose pour chaque catégorie de personnes. Et en particulier pour des personnes fragiles, des personnes âgées, isolées, c'est pas forcément la même chose que pour un jeune en pleine santé. Alors évidemment, à la Poste, il faut qu'on pense à tout le monde, puisque tout le monde, on a vocation à servir tout le monde. Et pour ces personnes fragiles, âgées, on développe toute une série de services pour les aider, quelle que soit la ville dans laquelle ils vivent, finalement, de pouvoir bien vivre chez elles, ce qui est leur souhait très majoritaire. Et donc ça passe par des services de portage à domicile, leur porter des médicaments, leur porter des biens culturels aussi. Ça passe par le fait aussi, ce qui est nouveau et ce dont on est très fiers, de demander à nos facteurs de passer, faire des visites de lien social pour lutter contre l'isolement de ces personnes âgées. Qu'ils aient du courrier à distribuer ou pas, le facteur passe à porter de la chaleur humaine à ces personnes âgées. Et ça permet à ces personnes de rester chez elles, quelle que soit la ville dans laquelle elles vivent.
Beaucoup de débats, il faudra que nous consacrions une autre émission à ce sujet, car les Niçois, évidemment, se rebellent. Laval est une ville que l'on a injustement oubliée, nous dit-on. La Rochelle est, paraît-il, une ville où il fait très bon vivre. Et puis Mustapha, qui nous dit qu'il serait bon qu'il y ait en ville des arbres fruitiers. Il y a à Paris une rue du figuier, mais il reste de moins en moins de figuiers. Trouve-t-on dans les végétations qui sont aujourd'hui cultivés en ville, des villes qui font pousser des fruits, je ne parle pas des citrons de Menton, mais d'autres lieux, Chantal.
Les citrons de Menton, très important, ville de Menton, remarquable ville, quatre fleurs. Mais oui, bien évidemment, de plus en plus, et on citait Nancy tout à l'heure, alors c'est vrai que le problème des déjections canines, c'est un problème qui est récurrent dans toutes les villes, mais Nancy plante des arbres fruitiers de façon à ce que les gens puissent se servir, et de plus en plus de villes ou de villages le font. C'est une notion de partage qui fait partie de cette démarche de labellisation. Et le bon vivre, c'est l'accueil, c'est la générosité, c'est être bien ensemble et c'est important.
Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle le hors-série annuel de l'Express Changer de région, quitter Paris, avec toute une série de classements qui vous permettront de voir en fonction de vos critères où est-ce que vous devriez aller, où est-ce que vous devriez rester. Taoufik Souami, votre livre Ville rêvée, ville durable aux éditions Découverte. Gallimard Jacques Azoulay, merci d'avoir été avec nous pour nous présenter les nouveaux services de La Poste et les nouveaux services de Nagui sont nombreux également. Ils vont vous être présentés.
En tout cas, vous parliez de Ville Fleurie, c'est Radio France Fleurie maintenant, puisque on peut accéder, vous savez, le parc, le jardin où ils plantaient la pelouse et les jolies fleurs devant la maison de la radio. Ben maintenant, ils ont enlevé les barrières. On peut aller se prélasser dans l'air et profiter.
On va aller se prélasser, mais on va se prélasser en écoutant la bande originale qui.
Avec Django, c'est un groupe anglais pour du live. Si vous aimez les Beatles, les Beach Boys, vous allez vous régaler. Et Didier Van Cauwelaert est notre invité pour son nouveau roman. Voilà, vous savez tout.
Merci Nagui, on vous écoute tout de suite après le Flash.